Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
On embarque.
On embarque ? C'est comme ça qu'on dit avant une course au large. Est-ce qu'il y a un mot pour lancer le top départ d'ailleurs ?
Non, il n'y a pas de mot vraiment. Non, il n'y a pas de mot pour lancer le départ, c'est top départ.
Okay, top départ. Ouais. Comment s'appelle cette personne qui s'occupe d'ailleurs de vous parler à tous et toutes sur le bateau et de vous donner les instructions comme le départ? J'ai oublié le nom de ce métier.
T'as plusieurs rôles à bord, t'as le performeur, t'as le barreur, t'as la personne en charge de la tactique, le tacticien.
Ok. Mais, non, mais celui qui parle sur la radio et qui parle à tous les coureurs.
C'est le comité de course.
Le comité
de course qui donne le départ, ouais.
Ok. Et ben voilà, le comité de course a lancé le départ.
Bien.
on est parti. On prend le large du coup avec Alexia Barrier. Écoute, je suis vraiment ravi de te rencontrer. C'est un beaucoup de plaisir pour moi parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette interview. Je mettrai d'ailleurs les petites vidéos qui m'ont plu, qui m'ont fait sourire dans la description de l'épisode pour que les auditeurs aillent te voir. Mais j'avais hâte de te rencontrer parce que en regardant un petit peu ton contenu, quelques interviews de toi, passage médiatique, j'ai vraiment l'impression que tu donnais un petit vent de fraîcheur, tu vois, dans ce milieu-là qui se rajeunit beaucoup quand même, qui se modernise, dans lequel il y a beaucoup d'évolutions, je trouve, sur les 10-15 dernières années. Il y a eu beaucoup de changements, à la fois technologiques et à la fois même dans la mentalité, je trouve. On va parler aussi d'égalité homme-femme. Et le dernier Vendée Globe était une super super vitrine, je pense.
C'est vrai, une super édition. Pour le nombre de participations des femmes qui rattrapent et peut presque faire oublier celle d'avant où il n'y avait aucune femme. Et là, par contre, c'était vraiment la honte. Donc, c'est en 2016, aucune femme inscrite au Vendée Globe. Donc, là, on était 6 en 2020.
Et 6 à l'avoir terminé en plus.
Et 6 à l'avoir terminé, 2 qui l'ont terminé hors course et les autres en course, mais ouais.
Et plus, il me semble un record, le record d'Hélène MacArthur qui a été battue,
oui,
c'est ça?
Oui, alors, comme la voile, la course large, en tout cas, c'est un sport où les femmes et les hommes sont classés sur la même feuille de match. Sur le Vendée Globe, il n'y a pas de temps féminin. Néanmoins, Clarisse a battu le record d'Hélène MacArthur, mais je tiens à souligner que ce record avait 20 ans. Ouais. Donc, il était temps. Le problème qu'on a, c'est que les femmes, on en reparlera, on n'a pas les moyens financiers d'avoir des bateaux pour gagner. Et c'est un sport mécanique, la voile.
Ouais.
Donc, on est là, on fait bonne figure, mais il y a un moment où nous aussi, on a envie de gagner.
Eh ben, écoute, on va dévorer ce sujet. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, tu vois, l'égalité homme-femme, notamment dans le sport et dans les représentations médiatiques aussi et dans le financement du sport. Donc, on va en reparler. Mais comme je t'ai dit, il y a une tradition sur le podcast. C'est de commencer par la jeunesse, l'enfance. Et je sais que tu as plein de choses à dire, d'ailleurs, parce que ton parcours sportif est très riche, très dense. Mais la première question, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Je pense que c'est un souvenir à l'âge peut-être de la 6e, c'était avec l'UNSS, parce que j'avais la chance de pouvoir participer à des compétitions UNSS dans différents sports, et c'était mon premier cross.
Okay.
Et comme toujours, alors mes parents, je pense que c'est vraiment les fondements de ma vie de sportive, on en reparlera, et mon père était là, comme toujours, pour m'encourager, et je sais pas ce qu'il lui a pris, il m'a donné un sucre, pour me donner de l'énergie, et je me souviens d'avoir failli m'étouffer sur un sport que voilà, je pratiquais pour la première fois, je me lançais dans une compète tout de suite sur ce cross, mais tout ça pour raconter qu'au final je me suis rendu compte que même quand il se passe des choses qu'on n'a pas prévues, que ça se passe pas toujours très bien, on peut quand même terminer la course et bien figurer, et qu'on a cette capacité en tant qu'être humain, finalement, de vite faire passer les mauvais moments pour passer à autre chose et poursuivre sa route. Donc ça, c'était une super leçon, ce cross UNSS.
Ok, ouais, mais c'est marrant parce que on se souvient tous de notre cross du collège, quoi. Je pense que c'est une histoire qui est toujours marquante. Il y a toujours un truc un peu traumatisant parce qu'on n'est pas forcément préparé, que c'est hyper intense aussi le cross comme sport. Donc
on est super fiers à la fin. On l'a fait.
Exactement. Puis de temps en temps, il y a les parents et les profs, il y a les autres années, les autres générations. Donc c'est très chouette. Ok. Et toi, tu te débrouillais bien en course à pied?
Je pense pas du tout. Je devais être, pour moi, bien se débrouiller, c'est être sur le podium. Et là, j'étais plutôt dans les 20 premiers, peut-être sur 100 élèves.
Pas mal.
Mais pas très loin du podium, quoi.
T'as toujours fait du sport? Tes
J'ai
parents
toujours
ont
fait
une
du
bonne
sport.
Culture sportive?
Ouais. Je pense que petite, déjà, j'ai démarré la navigation très tôt, à l'âge de 3 ans, avec mes parents. C'était pas vraiment du sport, ça, c'était de la balade et de la découverte. Et j'ai mes parents qui nous ont proposé, à mon frère et moi, assez jeunes, je pense qu'on va avoir 6 ans, de choisir un sport. Pour eux, c'était important qu'on ait une pratique sportive. Donc, j'ai commencé par l'équitation.
Okay.
Parce que ma mère adorait l'équitation. Et finalement, je suis arrivée rapidement à un bon niveau. Il fallait que mes parents investissent et m'achètent un poney pour pouvoir continuer la compète. Et ça, c'était pas possible. Ils avaient absolument pas les moyens. Ouais. Donc, j'ai fait le tour de la famille et personne voulait m'acheter de poney. Du coup, je suis passée au sport préféré de mon père, le basketball.
Ok.
Voilà. Et là, j'ai adoré. J'étais jusque en équipe régionale, en minime. Et c'était vraiment des années fantastiques de découvrir le sport d'équipe.
Ouais.
Moi, j'étais meneuse parce que je suis pas très grande. Et voilà, j'adorais toutes ces stratégies de course, de match. Il y avait déjà de la course, oui, mais et les compétitions et ensemble arriver à être les meilleurs, même si on n'était pas la meilleure équipe de la région. Voilà, on arrivait à tirer notre épingle du jeu. Donc c'est vraiment des années fabuleuses jusqu'au jour où je choisis de partir sur le sport études, donc okay. Collège à Antibes. Et là, ma mère me dit en fait non, ça va pas être possible puisque le niveau d'études de ce collège est pas terrible.
Okay.
Et puis en plus, tu es une femme, tu es française, t'es pas très grande, tu feras jamais de la NBA, donc ton rêve de NBA, wow. Tu l'oublies.
Ah, et c'est dur d'entendre ça.
Et là ouais, moi c'est comme tu vois dans Amélie Poulain ce film là où elle se transforme en flaque d'eau. Là, je pense qu'à ce moment-là, je devais ressembler à ça. Mais écoute, non, ça a été un peu dur sur le coup. Du coup, j'ai arrêté le basket parce que c'était NBA, championne du monde, rien du tout.
Ok.
Pas de concession. Et à la même époque, je vois à la télé le premier Vendée Globe, c'était il y a 30 ans à peu près. Ouais. Donc, j'avais 12 ans.
C'était en quelle année? C'était 90.
Attends, j'avais 12 ans, 90 ou 92. J'ai un trou de mémoire. Ouais, dans ces eaux-là. Et je vois 92. Le premier Vendée Globe à la télé. Et en fait, moi qui naviguais avec mon père, mes parents, et on faisait des petites régates corporatives avec l'entreprise dans laquelle travaillaient mes parents. À l'époque, c'était Air Inter et ils m'emmenaient sur ces régates corporatives. Donc j'aimais bien les régates. Et je vois ces gueules de marins là qui partent faire le tour du monde. Et là, mais j'ai des frissons, je m'en souviens encore de cette sensation. J'ai des frissons qui me recouvrent les bras et je me dis voilà, je serai pas championne de NBA, mais je vais faire le tour du monde en solitaire.
OK.
Par contre, cette fois, je le raconte à personne parce que j'ai pas envie qu'on me dise tu n'es pas assez comme ci ou tu es trop comme ça et tu n'y arriveras pas. Donc je voilà.
Une façon de te protéger cette fois-ci.
Exactement.
de quelconque retour quoi.
Ouais, ouais, ouais. Et donc le chemin de 12 ans à 40 ans est long pour y arriver. Mais hyper intéressant.
T'avais conscience de ça? Ça allait être des dizaines d'années avant d'y arriver.
Yep. Pas vraiment, hein. Donc je poursuis. Donc je m'inscris du coup à l'école de voile en compétition. À l'âge de 15 ans, je fais les premiers championnats de France. Et je m'en sors pas trop mal, mais j'ai un trop petit gabarit pour courir en dériveur.
Ouais.
Du coup, je passe dans une autre catégorie qui s'appelle le match racing. Ouais. C'est un bateau contre un bateau comme sur la Coupe de l'América en équipage.
Ouais.
Et en équipage féminin. Parce que là, sur le match race, il y a un classement féminin, un classement masculin. Et on arrive quatrième mondial en match racing. Et,
wow.
Et
okay,
ça, c'était vraiment encore de très belles expériences de navigation. On a beaucoup voyagé.
Ouais.
On a vécu des compétitions incroyables.
T'avais l'ambition de déjà performer sur cette catégorie de bateaux?
En fait, tout ce qui m'intéresse.
Tout à l'heure, dire c'est tout ou rien.
Voilà, tout ce qui m'intéressait, c'était arriver au meilleur niveau possible.
Ouais.
Et j'envisageais même de déménager au Danemark parce qu'à cette époque, au Danemark, il y avait un centre d'entraînement spécifique pour cette discipline. Ça, c'est pas fait. Et quand, si tu veux, dans l'équipage, j'étais la plus jeune, mais de 10 ans. Hein.
Ouais.
Les filles avaient peut-être envie d'autre chose, d'une vie familiale ou d'une vie professionnelle. En tout cas, elles avaient pas cette ambition que j'avais déjà à l'âge de 18-20 ans, encore, pas déjà, mais encore, tu vois, de vouloir être la meilleure. Et du coup, je me suis dit, bon, si ça bloque, si on n'a pas, comment dire, la même vision de ce qu'on veut devenir, je vais poursuivre ma route toute seule et je vais chercher un sponsor pour faire la mini Transat, la Transat 650. C'est une course qui part de France, qui va au Brésil, sur un tout petit voilier de 6,50 m.
Et t'as quel âge?
Là, j'ai déjà... 22 ans.
T'as 20, 22 ans et tu rêves déjà de course au large et de faire une transat, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Waouh. Parce que tu vois, j'imagine même pas. Là, j'ai un copain qui a une trentaine d'années. Moi, il fait beaucoup de voile depuis qu'il est tout petit, mais c'est pas non plus un professionnel. Il a pas fait beaucoup de compétitions. Le jour où il a annoncé son projet, tout le monde l'a regardé avec des grands yeux en lui disant. C'est super dangereux, fais super gaffe.
Ah oui, les gens adorent te dire ça. Hein.
Ouais. Toi, t'as eu ça aussi?
Bah ouais, ouais. Bah en fait, moi, je pense que la différence avec ton ami, c'est que j'étais déjà une des meilleures navigatrices au monde. Et évidemment, on m'a dit non, mais il faut d'abord que t'ailles faire une transatlantique en croisière sur un bateau avec un équipage pour te rendre compte. Je leur dis, mais vous voulez que je fasse quoi en croisière? Je vais passer ma journée à cuisiner, à tricoter. Comment ça se passe?
C'est pas du... le faire tout seul.
C'est pas du tout ce que je recherche. Moi, je veux voilà, faire marcher un bateau rapidement, ne pas dormir, tracer ma route, étudier la météo, et je vais y aller directement.
Tu t'es pas dit en duo ou en trio, ça pouvait être une solution?
Alors, sur le parcours qui t'amène à la mini transat, t'as des qualifications.
Ouais.
Et tu peux faire quelques courses en double. Donc, j'ai fait quelques courses en double. Et j'ai trouvé mon premier sponsor à l'époque qui était Roxy, donc une marque de surfwear. En fait, je venais juste de terminer mes études et j'ai pris un train pour Biarritz.
Okay.
Et je suis allée voir la directrice marketing. Mais c'était dingue, en fait, parce qu'une personne de mon équipe de match racing, donc de l'équipage féminin, Jean, était commerciale chez Roxy. Elle m'a dit, je vais faire passer un dossier à la directrice marketing. Et là, elle me dit, écoute, tu as un rendez-vous, va la voir. Je fais, ok, génial, trop cool. Par contre, moi, j'ai pas de sous pour prendre le train. Faut quand même que j'aille m'acheter un jean neuf et un t-shirt pour ressembler à quelque chose. Je vais quand même chez Roxy. Ouais. Et là, je commence à stresser de malade.
Finalement, t'es plus stressé pour la recherche de ton premier sponsor que pour tes premières régates.
Rien à voir. Donc, je prends ce train. Je peux payer que le billet aller, pas le retour. C'est pas grave. J'irai skier au retour. Et finalement, c'était Marichou d'Harry Grand me fait confiance et je suis la première fille en voile chez Roxy. Après, on aura Anne Liardet et Samantha Davis. Et l'aventure commence. Ça y est.
À ce moment-là, tu réalises que c'est bon, tu fais de la course au large, t'es validé.
Alors il faut encore trouver un bateau. Donc, je trouve un mécène qui m'aide à acheter mon bateau. Et une fois que j'ai le bateau, le sponsor, là, j'annonce à mes parents et à mon entourage que j'y vais.
Là, ça se trouve facilement un bateau à 22 ans. Tu vois, tout à l'heure on rigolait juste avant de commencer en disant double peine, être une fille et méditerranéenne dans la voile, c'est compliqué quoi. Comment est-ce que toi t'as fait?
En fait, j'ai eu la chance de naviguer avec une personne qui a pu me prêter des sous parce que évidemment j'avais pas de salaire donc je pouvais pas emprunter d'argent à la banque pour acheter le bateau. Encore une personne qui m'a fait confiance. Et une fois que j'ai eu le bateau, je suis allée le voir à l'arrivée au Brésil parce qu'il avait déjà participé à la mini transat. C'était un bateau d'occasion. Et donc j'ai signé le contrat au Brésil. Je suis restée 3 jours et je suis rentrée en France en attendant mon bateau. Mais j'ai jamais douté de comment aller chercher le bateau, prendre une voiture. C'est compliqué. Hein. C'est hors gabarit. Tu roules sur la route. Évidemment, t'as pas les moyens de te payer un transporteur, donc c'est tout le temps la débrouille, la mini transat. J'ai construit mon mât, ma baume, j'ai aidé à fabriquer mes voiles, j'ai appris tellement de choses.
Ouais. Tu as peut-être tout fait toi-même, en fait, au début, j'ai l'impression.
Quasiment, ouais.
Et tu donnerais quoi comme conseil, je sais pas, à une jeune fille qui a un peu le même parcours que toi, qui a un parcours effectivement plutôt, au début en équipe, en équipage sur des petites régates, sur de la maxi race, c'est ça, maxi race, match race.
Excuse-moi,
je suis pas un spécialiste.
Non, t'en fais
et,
pas.
Et toi, ça s'est fait par les rencontres. Tu lui dis ouais, le conseil serait quoi? C'est va naviguer avec plein de gens, parle-leur de ton projet. parle de ton projet.
Évidemment, il faut y aller. Et quand on a la vision de ce qu'on veut faire, quel que soit son objectif, il faut y aller. Mais il faut être conscient qu'on va pas avoir que des personnes qui vont nous accueillir les bras ouverts.
Ouais.
Moi, la première fois que je veux monter sur un bateau aux voiles de Saint-Tropez, un bateau qui me fait rêver avec un équipage qui me fait rêver, je me présente devant le bateau alors que j'ai un palmarès à 20 ans plus important que les trois quarts des mecs qui sont à bord. Et là, on me dit, bah non, toi, tu feras les sandwichs ou tu nous apporteras les amarres. Mais jamais on va t'embarquer.
C'est dingue.
Et bon, c'était quand même il y a 20 ans. Heureusement, les choses évoluent. Mais tout ça pour dire que il faut y aller, et ne pas douter de soi. Si les autres doutent, c'est pas notre problème, en fait, hein. Il faut juste foncer vers son objectif, voilà. Et, essayer de se créer des opportunités de rencontrer des personnes bienveillantes aussi.
Ouais.
Parce que tout seul, il y a un moment où ça bloque, on n'arrive pas à gravir la marche d'après et on reste, on stagne un peu. Donc, ouais. Essayer de trouver la personne bienveillante qui va nous offrir des opportunités de progresser et pas essayer de suivre le même chemin qu'une personne parce que chacun a sa route à tracer et elle est différente en fonction de tellement de paramètres.
Ouais.
Que voilà, il faut pas essayer de copier une route, mais plutôt suivre les opportunités et son instinct.
Ouais, j'ai l'impression qu'il faut beaucoup savoir saisir les opportunités, les créer, multiplier les rencontres aussi. C'est une aventure humaine finalement, la voile. Beaucoup d'histoires d'êtres humains en tout cas,
ouais.
Et avant tout et d'amitié plus que tout quoi.
Ouais, ouais, ouais. Il y a la Fédération française de voile aussi qui donne des opportunités aujourd'hui aux femmes de naviguer. Et vraiment, ils s'impliquent de plus en plus. La Fédération française de voile s'implique de plus en plus sur ce volet-là.
Ouais, ok. Effectivement, tu vois, j'ai l'impression que d'un côté, dans ton parcours, en tout cas jeune, il y a eu à la fois, qu'on se le cache pas, hein, tu vois, surtout 30 ans en arrière, la voile, c'est un sport très masculin. J'ai l'impression que d'un côté, on t'a fermé beaucoup de portes. Mais que les gens qui te l'ont ouvert, et t'ont vraiment aidé. Est-ce que ça serait un peu un bon résumé de dire ça?
J'ai une bonne étoile, je pense, parce que je suis tombée, il est tombé sur moi, Dennis Conner, un quadruple vainqueur de la Coupe de l'América, qui m'invite à naviguer à son bord pendant une saison, et avec son équipage de la Coupe, sur un vieux gréement, un vieux bateau, certes, mais j'ai appris tellement à ses côtés, et ça, personne n'a cette opportunité dans la vie. C'est juste, j'ai eu énormément de chance. Je m'occupais d'organiser une course à Antibes. Okay. Il est venu inscrire son bateau. Il a vu mon petit mini qui était là en expo parce que je cherchais des sous. Du coup, on l'avait exposé sur le lieu de la régate. Et il me dit, c'est quoi ce bateau? Qu'est-ce que tu vas faire? T'es folle. Viens naviguer avec moi. Il y a eu Denis Kona, il y a eu Florence Artaud, il y a eu Luc Poupon, des personnes avec qui j'ai navigué aussi en équipage sur un maxi de 35 mètres qui ont fait la Coupe de l'América à la Volvo. Je pense que le fait de pas avoir été bercé par l'école bretonne de la course au large à Port-la-Forêt, qui est très très spécialisée finalement, m'a permis de d'être ouverte sur l'international et beaucoup plus éclectique que pas mal de skippers, ce qui m'a donné ces opportunités finalement.
Ouais, mais j'ai l'impression que c'est vrai qu'il y a à la fois une voie toute tracée dans la voile, mais il y a aussi beaucoup de parcours complètement différents. Comme je te disais, j'avais rencontré Alan Roura, qui était un super échange, et lui son histoire elle est rocambolesque, quoi, d'apprendre que ouais, il a passé sa vie sur un petit bateau et a bossé dans les ports, quoi. Clarisse aussi m'a beaucoup inspiré là-dessus, et enfin c'est vrai que c'est des parcours de vie, je trouve, qui, même quand on fait pas de la voile ou qu'on est juste sportif ou même juste être humain, c'est extrêmement inspirant parce qu'on se rend compte que tout est possible et que il suffit de créer sa chance, de croire en sa bonne étoile et au bout d'un moment, à force de bonnes énergies, de motivation et de vraiment d'envie et d'enthousiasme, on peut y arriver, quoi. Donc
ouais, il faut pas lâcher et le jour où tu te réveilles le matin et que t'as plus envie de faire ce type de challenge, bah là il faut savoir aussi s'arrêter, je pense, et passer à autre chose.
Ça t'est jamais arrivé, toi?
Non. Par contre, je sais pas pourquoi, parce que j'ai vécu tellement de trucs difficiles, tu sais, de pas réussir à boucler les budgets, de emprunter des dizaines ou des centaines de milliers d'euros pour pouvoir avancer, t'engager auprès d'une équipe que tu dois rémunérer, enfin L'aspect financier en voile, il est très lourd quand même, et donc ça peut faire flipper, tu vois, c'est vraiment des engagements très conséquents. Ça ou alors parfois de pas avoir les opportunités que j'aurais souhaité avoir, de me dire mais pourquoi moi on m'a pas appelé pour faire ça alors que tu vois, tu sais que t'as le niveau, mais c'est pas grave, c'est comme ça et il y aura d'autres choses qui vont arriver dans le futur, donc c'est bien.
J'avais écouté une interview de toi où ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Enfin, je le réalisais, et puis ça fait un lien avec le métier que j'ai fait pendant 3 ans, où tu disais le plus dur finalement sur un Vendée Globe, c'est pas forcément la ligne d'arrivée, c'est parfois d'être sur la ligne de départ, parce qu'on est beaucoup à vouloir faire on a beaucoup à avoir ce rêve, mais c'est extrêmement dur effectivement avec d'aller trouver des partenaires, de construire une équipe. Toi, ça a pris quand même beaucoup de temps avant d'y arriver. T'as fait des nuits blanches. Il y a eu des moments. Tu pourrais raconter des moments un peu particulièrement durs ou.
J'ai cru plusieurs fois j'ai fait la mini transat en 2005.
Ouais.
Je suis rentrée en IMOCA parce que j'ai ramené le bateau à l'époque de Anne Liardet. Et derrière, il y avait la route du Rhum. Et là, Philippe Monet, un marin connu, me prête son IMOCA pour que je puisse participer à la route du Rhum. Mais il fallait quand même trouver des sponsors.
Ouais.
Je pense que depuis 2006, enfin, le Vendée Globe 2008, je m'y vois.
Ouais.
Je pense que je vais y arriver. Il y a toujours ce truc de pas trouver les sponsors. Et je pense que le pire pour moi, ça a été ce qui a tout déclenché finalement et qui m'a amené à y participer. Parce qu'à un moment dans la vie, faut y aller, quoi. Faut pas attendre que tout soit parfait. Donc, c'est en 2017, je suis contactée par un sponsor qui me dit, on adore votre profil. On va vous construire un bateau neuf pour vous donner la chance de pouvoir faire un projet performant. Donc, je travaille, je sais plus, pendant 6 mois, 9 mois avec l'aide de Juan Couillou-Méjean, Vincent Rioux, enfin un architecte naval très connu, Vincent Rioux qui est un navigateur très connu, qui a gagné le Vendée Globe. On travaille d'arrache-pied pour faire ce projet. Et du jour au lendemain, j'ai plus de nouvelles du sponsor. Mais plus de nouvelles, zéro.
Wow, ok. T'as déjà engagé du coup une...
J'ai pas engagé de frais vraiment, mais on n'était pas loin de le faire. Mais du temps et surtout... ma crédibilité vis-à-vis de personnes de mon univers, quoi, de mon milieu professionnel. Et pour moi, ça, c'était très dur. Je voulais pas être la pauvre fille qu'on laisse sur le quai, là, et qui ne va plus faire le Vendée Globe. Et du coup, là, impossible de faire marche arrière. On est en 2017, le Vendée Globe 2020 en ligne de mire. Et je me dis, écoute, Alex, tu vas pas partir avec le meilleur bateau, mais tu vas y aller. Donc, on appelle un dossier et il y a 2 banques qui sont OK pour me prêter des sous pour acheter un vieux bateau, un bateau ancienne génération. Et là, je t'avoue, pendant 3 jours, je me lève tous les matins, mais mal au ventre, la nausée. Je me dis, c'est pas possible, je peux pas prendre un prêt de 300 000 euros à la banque, j'ai pas de sponsor, j'ai pas de sous. Perso, j'ai rien, comment je vais faire ? Ça me rend malade.
Et ouais, du coup, comment tu fais pour sortir de ça?
Et là, j'ai eu la chance de naviguer sur des circuits, sur des bateaux qui appartiennent à des milliardaires. Donc, je connais au moins 3 personnes qui seraient capables de me prêter les sous pour partir. J'appelle le premier. Il dit, écoute, je réfléchis, je te rappelle demain. Et on me rappelle le lendemain. Je me souviens très bien. Il pleuvait. J'étais en entraînement à la Grande Motte en Figaro. Et il me dit, OK, c'est bon. Je te prête les sous.
Ok, t'as un bon réseau quand même.
La folie, la folie. Et je dis, ok, alors comment ça se passe pour les intérêts? On fait comme une banque, on fait un compte. Et puis là, laisse tomber. Quand tu auras fini ta course, tu vends le bateau, tu me rembourses. Et ça va bien se passer.
Ouais, c'est cool.
Et là, le fait d'avoir un bateau, l'histoire démarre.
Ouais.
Et on trouve des partenaires. Je monte un business club avec un ticket d'entrée à 3000 euros. Mmh. Ce qui me permet d'avoir un petit budget pour démarrer. Et petit à petit, on a un budget qui permet de se qualifier, de faire des courses de qualification pour être présente au départ du Vendée Globe. Avec 150 000, 200 000 euros par an, c'est 1/10 des budgets gagnants, même pas. C'est même pas un budget de solitaire du Figaro. Et on a réussi parce que j'ai eu l'aide de tellement de monde, d'amis, de bénévoles qui sont venus m'aider. Et finalement, J'ai failli pas y aller puisque la classe IMOCA a changé la jauge, la réglementation sur les bateaux et me demande de changer de qui.
Quelques mois avant, non?
C'est... Ouais, 2 mois avant, enfin wow. 1 mois avant le départ, deux mois avant, on va dire, je change de qui, mais c'est 150 000 euros. C'est la moitié du prix du bateau que j'ai acheté, tu vois.
Ouais.
Et gros stress, et puis je m'engage auprès du chantier qui construit la quiche, je dis on va y arriver, démarrez, on vous payera, allez-y, lancez la production, parce que la production c'est 1 mois, et finalement on y arrive. Et tu vois, c'est ça les sueurs froides pour arriver sur la ligne de départ du Vendée Globe.
Ah mais il en faut de l'optimisme, tu vois, c'est comme ça que tu te définirais, de l'optimisme ou de l'entrain, parce que...
Ouais, de la détermination. Ouais,
il y a plein de gens qui auraient lâché, quoi, à ce moment-là.
Parce que je vis pas non plus dans le monde des bisounours, mais par contre, je lâche rien. Je suis réaliste sur ma situation. Alors, je croise des gens qui me disent, non, mais tu fais n'importe quoi, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Mais si pour vous, ça ne marche pas comme ça, ça veut pas dire que pour moi, ça ne va pas marcher. Donc, au final, c'est passé, ça l'a fait. J'ai vécu. Du coup, mon rêve d'enfant, le Vendée Globe 2020. Et il m'est arrivé plein de péripéties, comme à tous les skippers du Vendée Globe. Parce que quand tu vas sur le défi le plus extrême, la course la plus extrême au monde, tu sais qu'il va se passer des trucs. Et je pars sur ce Vendée Globe et je termine. Et c'est magique.
Ouais. Et je voulais te poser une question sur effectivement le conditionnement peut-être psychologique avant. Alors, il me semble que t'as déjà fait un tour du monde à ce moment-là.
J'ai fait une première tentative. Ouais, j'ai passé 5 mois en IMOCA, en solitaire. Comment on se prépare? Alors, le fait, je pense, de te voir sur ce bateau depuis l'âge de 12 ans, ça aide. Parce que quelque part, tu te conditionnes.
Ouais.
Ensuite, évidemment, dans ma vie de sportive de haut niveau, j'ai travaillé en préparation mentale.
Ouais.
Et je veux dire, quand j'ai démarré, c'était juste de la sophrologie, mais maintenant il y a tellement d'outils, jusqu'à l'auto-hypnose, que j'ai fabriqué ma petite mallette, ma trousse à outils de prépa mentale, qui fait que j'arrive à surmonter pas mal de situations.
Qu'est-ce qu'on trouve dedans, dans ta petite boîte à outils?
Alors, t'as des images de calme, des images pour se motiver. Pour évacuer le stress, des exercices de respiration, l'imagerie mentale, la visualisation et l'auto-hypnose récemment pour améliorer ma qualité de sommeil, comme on dort très peu. Tu sais, on dort entre 8 et 40 minutes, 4 à 6 heures par 24 heures. Donc, il faut que les 8 minutes, ce soit 8 bonnes minutes et pas 8 minutes où tu te dis, mince, le bateau avance pas. Il faut pas que je dorme, il faut que j'aille régler les voiles, tu vois.
Mais comment tu fais, du coup? T'as un geste ou un protocole qui te permet de t'endormir hyper vite et profondément?
Alors oui, c'est juste de me mettre dans la position la plus confortable possible, tant que faire se peut sur nos bateaux, c'est pas toujours ça.
Confortable, c'est pas forcément le mot que j'aurais choisi.
En tout cas, t'as quelques douleurs qui disparaissent, parce que t'es complètement fourbu hein, quand tu fais le Vendée Globe, donc t'essaies de te caler pour pas avoir trop mal aux muscles. Et moi, en fait, si je me dis, Alex... Ça, c'est ta seule opportunité de dormir. Et là, je m'endors direct.
Ok. Et ça, tu l'as travaillé avant?
Ouais, je l'ai travaillé à force de d'expérience. Et sur mes premières courses, je me mettais dans le rouge. J'avais des hallucinations. Je voyais des choses incroyables qui n'existaient pas. Mais ça, c'est hyper dangereux, en fait.
Ouais.
Et j'évite d'en arriver à ce stade-là. Et parfois, il faut accepter de ralentir. Mais dans la vie, c'est pareil, je pense. Accepter de ralentir pour mieux accélérer derrière. C'est tout ce qui fait la beauté, je trouve, du sport ultra, où tu peux pas tout le temps être à fond. Faut vraiment avoir cette gestion de l'effort et le faire à l'écoute de ton corps, mais aussi de ton mental. Et ton mental t'aide à aller très loin, finalement.
Ouais, mais je le découvre. Moi, je m'intéresse beaucoup à la préparation mentale, du coup, avec tous les athlètes que j'interview. Et je me rends compte à quel point, dans la voile, c'est d'autant plus important, parce que vous avez un effort qui est tellement long, qui est tellement intense à la fois, que effectivement Je pense que le fonctionnement du cerveau, moi, je me donnerais à cœur joie de pouvoir vous mettre des électrodes sur le crâne pendant toute la durée de votre périple.
La spécificité, c'est que tu es seul. Alors, si tu te mets dans le rouge, que tu n'es plus lucide, tu peux plus gérer ton bateau, ça peut devenir dangereux au-delà de la performance. Ouais. Après, si tu te fais une crise de nerfs, tu t'énerves parce que t'as loupé un truc, eh ben.
C'est déjà arrivé, toi?
J'évite d'en arriver là parce qu'en fait ça te prend tellement d'énergie pour t'en remettre derrière. Et tout ce temps passé à être épuisé parce que t'as pété un câble, finalement c'est très désagréable. Hein.
Ouais.
enfin, c'est un peu idiot ce que je dis, mais franchement pensez-y avant de vous énerver à tout ce que ça va amener comme mauvaise vibes et temps de récupération derrière. Et ça fait pas avancer le problème en fait. Donc parfois oui, tu cries, tu pleures, voilà, tu t'exprimes, mais il faut, je pense, essayer de rester dans une zone où ça reste gérable quand même.
Ouais. Mais c'était une des questions que j'allais te poser. Ouais, c'est de savoir comment est-ce que t'évacues effectivement un pic de tension, parce que j'ai vu que durant ta traversée t'avais eu des problèmes notamment avec, je crois, ton moteur ou ton générateur, c'est ça?
J'ai l'hydrogénérateur, donc c'est l'hélice qui tourne à l'arrière du bateau pour produire de l'électricité qui était cassée plusieurs fois.
On a besoin de beaucoup d'électricité sur un bateau,
Pour faire tourner le pilote automatique, le vérin de la quille, l'ordinateur. Et on n'a pas d'assistance mécanique pour tourner les winches. C'est tout se fait manuellement.
Ouais.
Mais il faut quand même pas mal d'énergie pour faire tourner le désalinisateur pour avoir de l'eau potable.
Ouais. Si t'as un problème avec du coup ton générateur, c'est que t'as un gros problème. Quoi.
Ouais, t'as un gros problème. T'as plus de pilote automatique, donc tu peux plus dormir, plus du tout. Tu peux plus t'alimenter, tu peux plus manœuvrer,
ouais.
Parce que c'est des bateaux qui pèsent 10 tonnes et tu peux pas les laisser comme ça sans personne qui tient la barre, tu vois. Donc tu peux bricoler, attacher la barre, mais sur un tour du monde, c'est ingérable. Ouais. Et si t'as plus d'ordinateur, t'as plus de cartographie, donc c'est très compliqué pour étudier la météo et savoir où il faut aller pour éviter les tempêtes. Je dis même pas aller le plus vite possible, juste éviter les tempêtes du Grand Sud, tu vois.
Ouais. Mais du coup, ouais, c'est la question que je me posais, c'est déjà, est-ce que tu peux raconter un peu le problème que t'as eu? Et moi, la question que j'avais, c'était comment est-ce que tu fais pour reprendre un peu le contrôle là-dessus, parce que ce que j'ai compris, c'est que c'était du coup un très gros problème, comme tu viens de le décrire. Et que comment est-ce que tu peux absorber et évacuer un peu cette pression et ce stress qui met presque ta vie en péril, quoi?
J'ai eu deux gros problèmes, enfin trois, on va dire, deux mécaniques et un physique. Le premier, c'est le jour de Noël. Le câble qui tient mon mât casse et mon mât se plie en deux. Et là, j'ai vraiment cru que c'était terminé, que mon mât allait se casser en deux.
Ouais.
Et en fait, tu vois le carbone, un tube de 29 mètres qui se plie en deux. Et je sais pas comment, c'était le miracle de Noël, et il s'est remis droit. Mais j'arrivais juste, tu vois, à la frontière entre l'Indien et le Pacifique, donc juste là où il faut pas tomber. C'est comme quand t'es en montagne et tu passes sur une crevasse, t'as pas le droit de tomber. Bah là c'est pareil, là t'as pas le droit de casser. Et j'ai mis, je pense, 4 jours avant de reprendre confiance dans mon bateau. Ouais. J'osais pas renvoyer de la toile et faire accélérer le bateau. Le premier jour, mon équipe me dit, tu sors pas du bateau, tu sors avec un casque parce que si le mât tombe, faut faire attention à toi. Donc, j'avais un petit peu peur quand même.
Tu m'étonnes.
Tu vois, qu'il y ait une avarie et peur pas de me faire mal finalement, mais que l'aventure s'arrête. Et
ouais.
Je pense que c'est ça le pire sur un Vendée Globe, c'est quand tu dis que tu vas casser du matériel et que l'aventure est terminée. Et le deuxième problème que j'ai eu, c'est ce hydrogénérateur. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait le support auquel il est attaché sur le bateau s'est arraché. Donc c'est un support qui est fait avec un pseudo plastique et du carbone.
Ouais.
Et avec les vibrations du bateau dans les vagues, ça s'est arraché. Et il y a pas d'accès. Il faut que tu grimpes par l'extérieur du bateau en étant attaché évidemment,
ouais,
pour déjà aller démonter la pièce. Ensuite, j'ai reconstruit une pièce en carbone Et je suis allée refixer cette pièce, mais là je te parle de ça, il y a 6 mètres de creux, l'eau elle est à 0 degré, je suis dans les 50e rugissant, ouais. Et il fait nuit tout le temps, et il y a que les albatros qui se marrent dans cette contrée de la planète, tu vois.
Donc, toi tu souris pas, oui, c'est
non,
sûr.
Non, moi je souris pas, et puis c'est, comme tu l'as dit, c'est crucial, il faut que je répare, parce qu'autrement ça va être très compliqué, je serai obligée d'abandonner au Cap Horn, tu vois.
Ouais. C'est pas le meilleur endroit pour abandonner en plus.
Non, pas du tout. Donc comment tu fais ? Eh ben, tu as une équipe à terre qui te donne des instructions sur comment réparer. Tu as embarqué tout le matériel nécessaire pour réparer du carbone ou autre sur le bateau.
Ils sont combien à terre à t'aider ?
Bah en fait, il y a un groupe de 3 préparateurs qui se relaient et j'ai une veille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, on n'a pas le droit d'avoir d'assistance, mais on a le droit d'avoir des conseils, des notices, en fait, sur la réparation. Ouais.
Assistance, ça peut être les conseils du type météo.
Ça, c'est strictement interdit. Ouais. Au niveau médical, si tu as un problème, tu dois t'adresser au médecin de course qui te prescrit les médicaments que tu dois prendre. Tu as le droit d'appeler ton médecin traitant, mais le médecin de course doit valider. Okay. Et après, t'es super contrôlé par la direction de course. Il y a une équipe, je sais plus combien ils étaient, de 6 personnes qui contrôlent ta route, 24 heures sur 24 pour vérifier que, bah, t'as pas, je sais pas, quand il n'y a pas de vent, t'as pas essayé de mettre le moteur, bref. Ouais. Voilà, que tu n'as pas triché. Il faut dire que la voile, c'est pas un sport où, en tout cas, le Vendée Globe, c'est pas un sport où on triche beaucoup. Alors, je pense que d'être face aux éléments, ça t'apprend à être vrai et à être humble et de faire avec ce que tu as et de pas essayer d'aller contourner les règles. Donc il y a cette équipe fantastique
qui t'aide et qui
m'encourage et mon père, mes parents qui sont là et mon chéri aussi qui m'encourage. Et mon père, il a ce don. Je sais pas comment il fait. Enfin, il connaît quand même très bien la voile et la météo, mais à chaque fois qu'il y a une tempête qui va m'arriver dessus, il me dit non mais il m'envoie un petit mail. Ma fille, n'oublie pas que c'est toi qui as choisi d'être là. Le moment va être difficile, mais ça va pas durer longtemps. Après, tu verras, ce sera mieux. Ok, merci papa. Et la tempête, tu te fais éclater la tête.
La petite phrase, n'oublie pas.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pardon? C'est pas terrible, on enregistre là dans 20 minutes, ça vous dérange pas à la fin? On fait que de l'enregistrement audio, donc a priori il y a pas d'image.
J'irai le voir après.
Je peux lui expliquer, mais si on fait de l'image, il y a pas besoin d'accréditation en tout cas.
Tu vas devoir faire un montage.
Non, c'est pas grave, j'ai l'habitude, c'est mon job, t'en fais pas.
Bon.
je mettrai un petit insertion audio comme quand on a été coupé. nous ne sommes pas hors la loi. Je vais noter la minute comme ça, je le retrouverai facilement. Hop.
Donc voilà, je suis soutenue et en mer, on est seul, mais il y a une équipe à terre qui nous encourage. Alors on peut communiquer depuis le dernier Vendée Globe avec WhatsApp, s'envoyer des messages, et entre coureurs on s'envoie des messages quand on voit qu'il y a un coureur qui a pas la bonne route, pas la bonne vitesse, pour savoir comment il va, parce que la solidarité des gens de mer, c'est pas une légende, et je pense que c'est un des rares sports où t'as tellement envie de battre l'autre, mais c'est aussi tellement la seule personne qui peut te sauver la vie que ça crée des liens. Et on est tout le temps très attentif à comment vont les autres. Le jour où Kevin Escoffier a perdu son bateau, on était tous accrochés à nos WhatsApp et terrorisés et tellement hâte de connaître l'issue heureuse de l'histoire.
Bien sûr, ouais.
Et ouais, c'était assez terrible. Le dernier truc qui m'est arrivé, je dois quand même le raconter. parce que je me suis blessée 10 jours avant l'arrivée.
Ouais.
J'ai rencontré le truc le plus dangereux du Vendée Globe, c'est un legging.
Okay.
C'est en changeant de pantalon. Okay. Où j'ai glissé dans le bateau et je me suis fracturé le dos. Et en fait, j'ai fini les 10 jours du Vendée Globe sans pouvoir marcher.
Okay.
Alors, ceux qui font de la voile, essayez d'imaginer la manœuvre sur un bateau de 18 mètres sans pouvoir marcher. J'avais pas fière allure.
Ouais.
Et on m'a même proposé... Enfin, on me l'a pas proposé, mais on l'a proposé à mon équipe, envisagé de m'élitreuiller. Mais après 100 jours de mer et à 10 jours de l'arrivée, je peux te dire que l'hélicoptère, j'aurais renvoyé aussi rapidement à son expéditeur. et j'ai terminé comme ça, voilà, avec une douleur intense et des médicaments pour tenir le coup.
Oh, quelle histoire, quelle histoire. c'est incroyable. Et il y a des mots, c'est quoi les pires pensées? Est-ce que tu as des pensées noires à ce moment-là? Est-ce que tu as des pensées quand même terribles? T'arrives à les évacuer facilement?
Les pires pensées, c'est juste quand je me dis que c'est fini, que la course est terminée. En tout ce qui concerne le matériel ou mon physique, je sais que j'ai déjà vécu des choses dures en mer, que les skippers qui ont fait ce Vendée Globe avant moi, donc faut savoir qu'il y a 92 skippers qui ont terminé cette course depuis qu'elle existe, donc depuis 30 ans.
Ouais.
Et ces skippers ont vécu des choses terribles et ils ont quand même terminé la course. Et ça fait partie du jeu, entre guillemets. Donc, pas de panique, juste essayer de trouver des solutions. Mais je vois pas un moment, même quand je me suis blessée, là, en fait, j'ai pleuré parce que je me suis dit que ça allait être très compliqué de terminer. Mais voilà, pas de panique. Et il y a toujours des solutions.
Ouais.
Il y a toujours des solutions. Et c'est ce que je trouve merveilleux, en fait, en bateau, c'est que c'est pas, peut-être pas comme en montagne où en montagne la sanction elle est plus radicale. Tu fais corps avec ton bateau et t'arrives à avancer, quoi.
Ouais. Bah écoute, c'est hyper beau, c'est hyper inspirant et je pense que tu vois, c'est une des choses qu'on peut retenir effectivement de tous les marins, c'est leur résilience et leur capacité à avoir du sang-froid même dans les pires moments. Je trouve que c'est très très inspirant pour le commun des mortels, si je puis dire, mais et ça montre que tout est possible, quoi. Et tu vois, après des moments aussi intenses, aussi forts, où t'es toute seule, tu dors pas, comme tu l'as dit, l'eau est à 0 degré, tu dois envoyer, enfin tirer sur une voile qui fait plus de 20 mètres de long,
deux fois ou trois fois mon poids,
qui fait exactement plusieurs fois ton poids, avec le vent, les nœuds, tout ce qu'il y a. Comment se passe l'arrivée, quoi? C'est pas trop. Tu reviens dans un monde hyper social où on te parle, il y a plus que toi qui te parle à toi-même, entre guillemets, tu vois. Comment toi tu l'as vécu avec le recul?
L'arrivée, pour moi, elle était spéciale parce que j'étais blessée donc c'était vraiment une délivrance que de passer la ligne d'arrivée. Ouais. Je devais passer la ligne d'arrivée à 14h pour des raisons de médiatisation. J'ai appelé ma chargée de communication, Anne Millet, en lui disant « Je vais pas y arriver. J'ai l'opportunité, là, avec le vent qu'il y a, d'arriver à 8h du mat, parce qu'il y a aussi des problèmes de marée pour rentrer dans le chenal des sables. Et je suis désolée, mais je vais arriver à 8h du mat, parce que... » Et là, je m'en souviens, en fait, je suis arrivée avec la pleine lune. Donc, le jour se lève, commence à se lever, mais il y a déjà... plein de petites lumières qui arrivent vers moi, tous les zodiacs, c'est toute l'organisation, ma famille, mes amis qui sont là, mes sponsors, pour m'accueillir. Et là, je réalise que ça y est, la délivrance est proche, mais il faut rester attentif parce qu'il y a plein de casiers de pêcheurs et ce serait vraiment trop dommage à 100 mètres de l'arrivée de bloquer ton bateau, de faire une erreur.
Ouais. Donc, c'est déjà arrivé?
Ouais, c'est arrivé. Ouais, okay. Ouais. Bah, Boris Herman, il a passé la ligne d'arrivée, mais il a percuté un chalutier la veille de l'arrivée, donc il aurait pu ne pas terminer. Donc, tu restes concentré, t'apprécies le moment, mais il faut rester concentré jusqu'à la dernière minute. Et t'arrives donc dans le chenal des sables. Étant donné que je devais arriver à 14h, il y avait un arrêté préfectoral parce qu'il y avait le Covid interdisant aux gens d'aller sur le chenal,
Ouais.
Rassemblement interdit, mais comme je suis arrivée plus tôt, finalement, il y avait plein de monde. Ça, c'était chouette. Et t'arrives à quai, et là, tout de suite, c'est répondre aux journalistes, les embrassades, alors que j'avais pas vu un être humain depuis 111 jours. T'es pris dans un tourbillon voilà, de bienveillance. Et c'est... ça fait tourner la tête, mais c'est aussi réconfortant parce que je pense que c'est une délivrance pour moi, mais aussi une délivrance pour tous ceux qui m'ont suivi, ouais. De voir que je suis arrivée en un seul morceau avec mon bateau, le plus vieux bateau de la flotte, au Sable d'Olonne.
Septième tour du monde, c'est ça, par ce bateau?
Ouais, ouais, sept tours du monde.
Six Vendée Globe, je crois, ouais, ok.
Que la boucle est bouclée et après tu rentres en salle de presse et tu fais ta conférence de presse et on te bombarde de questions. Et un autre truc marrant, c'est que quand tu arrives du Vendée Globe, on te propose de choisir ton menu d'arrivée, donc
c'est
tu
vrai
choisis ce que tu veux.
C'est vrai, je savais pas ce petit détail, ok.
Moi j'adore les pizzas, donc j'ai demandé une pizza avec de la mozzarella et une salade de kiwi en dessert. Et en fait, t'arrives en salle de presse, donc moi j'arrive avec mes béquilles.
Ouais.
Parce que j'ai refusé le fauteuil roulant.
T'as un corset en plus, je crois.
Ouais, j'ai une ceinture de maintien et tu te changes quand même pour pas arriver en combinaison de bateau, en combinaison de survie à la conférence de presse. Et là, le temps est passé et t'avais, je sais pas, une demi-heure pour manger ta pizza et t'en reste plus que 5 minutes. Donc tu peux même pas apprécier ton repas, t'es en salle de presse et t'es bombardé de questions et après c'est un enchaînement pendant 3 mois d'interviews, de radio, de télé,
ouais.
Où tu fonctionnes en mode automatique, mais c'est un très grand plaisir de partager. Enfin, moi, c'était un très grand plaisir de partager ce que j'ai vécu. Donc, j'ai pas compté mes heures de fatigue et je me suis dit, bah voilà, faut profiter de ce moment-là aussi, puisque tu sais pas si ça va arriver une nouvelle fois dans ta vie, quoi.
Ouais, bien sûr, ouais. Non, et puis j'imagine. Te connaissant, tu pensais peut-être déjà au coup d'après.
Ça, j'y pensais déjà même avant de l'avoir passé la ligne d'arrivée.
Donc, ouais. Et c'est comme tu l'as dit, c'est pour vous, c'est aussi un gros travail de d'être au contact et de communiquer sur ce que vous faites pour justement préparer des nouveaux projets. Peut-être là, pour terminer effectivement sur l'état de forme, combien de temps il faut pour vraiment récupérer Donc toi, ça dure 100 jours, si je me trompe pas. Donc 100 jours à dormir entre 4 et 6 heures, quoi, d'un effort extrêmement intense et extrêmement éreintant, usant. Combien de temps tu t'es dit « Ah, ce matin, je suis en forme ».
Physiquement, il faut le temps de la course.
Ouais.
Plus ma blessure, donc la fracture de l'apophyse transversale, le temps que ça se remette en place. Mais le temps de la course, donc je veux dire 3-4 mois.
Ouais.
Et je pense qu'intellectuellement, en vrai, on a fêté là le 28 février les 1 an de mon arrivée. Mmh. Et je crois qu'il m'a fallu 1 an
pour réaliser.
Ouais, peut-être. Ouais.
Bon, on fait bien de savoir maintenant.
Parce que j'étais encore pas là, quoi. Ouais. J'étais encore sur mon bateau.
C'est vrai. Ouais. Avec des rêves. C'est quoi les meilleurs souvenirs ou les images? Je sais que justement dans cette conférence de presse que tu mentionnes, je t'ai vu parler de dauphins que t'avais vu, t'as parlé d'albatros aussi. Il y a une connexion avec l'océan qui est très forte à ce moment-là.
Bah, tu sais, tu vis 111 jours. J'ai vécu 111 jours. J'ai vu une seule fois la Terre, c'était le Cap Horn. J'ai eu la chance de le voir et j'ai pas vu d'être humain pendant 111 jours. Et mes seuls amis, c'était les dauphins, les oiseaux. Quand je suis arrivée dans les 40e rugissant, j'avais un peu peur parce que les 40e rugissant, c'est un mot impressionnant, ouais. Plein d'histoires terribles en mer. Et finalement, moi, j'ai eu la chance d'avoir une météo très clémente et de trouver là un gardien de la porte des 40e rugissant. Je croyais au début que c'était un tronc d'arbre, mais finalement c'était un phoque qui était en train de se faire bronzer sur le dos. Mais ces nageoires, ça me faisait penser à des branches d'arbres.
Okay.
Et quand je me suis rapprochée, j'ai vu que c'était un phoque. Et il s'est retourné et on s'est regardé les yeux dans les yeux pendant 30 secondes qui m'ont paru être une éternité. Mais j'ai été complètement submergée et bouleversée par ce moment-là. Et après, quand tu es dans l'Indien, le sud de l'Indien, le sud du Pacifique, c'est à la fois effrayant et majestueux parce que la météo est déchaînée, les vagues sont énormes, des vagues de 8 mètres. J'ai passé 10 jours, 2 semaines à plus de 40 nœuds de vent. Et derrière,
wow, okay.
tes voiles, elles créent des tourbillons et tu vois que ces tourbillons, ça sert de toboggan pour les oiseaux qui sont comme dans un jardin d'enfants.
Sérieux?
Et tu te dis, mais voilà, la vie sauvage, quand les humains sont loin, ils ont aucune crainte et ils s'approchent et ils s'amusent et tu les vois communiquer entre eux, pêcher. C'est à regarder, c'est vraiment un spectacle incroyable.
Okay.
Et j'ai eu la chance de faire finalement un tour du monde très lent sur ce vieux bateau parce que le prochain va être très rapide sur un autre bateau, un multicoque, et je pense que j'aurais pas le temps de regarder comme ça ce qui se passe autour de moi.
Ouais. Ok. Et c'est plus. Tu penses pas que c'est plus fatigant d'ailleurs de plus le Vendée Globe est long, plus le finalement l'effort est compliqué et éreintant.
Je pense pas, parce que quand t'es sur un bateau rapide, t'as beaucoup plus de stress, tu navigues à plus haute intensité et tu te prends plus de chocs. Et le bruit du bateau aussi, c'est hyper stressant.
Ouais.
Physiquement, mon bateau, c'était le plus dur parce que les voiles sont plus lourdes que sur tous les autres bateaux. Il y a plus de friction, etc. Mais tu navigues à plus haute intensité quand t'es sur un bateau plus moderne.
Ouais.
Donc, okay. Je pense que les deux sont très fatigants au final.
Ok, ouais, donc c'est dingue de mettre un an psychologiquement à réintégrer et tout. Et on parlait un peu de la suite. T'avais déjà prévu un peu sur ton bateau. Effectivement, 100 jours, ça laisse le temps de réfléchir.
C'est clair.
C'est un peu la question qui me vient, c'est comment après, tu vois, un si bel exploit dont tu rêves depuis que t'es jeune adolescente, quoi. Comment est-ce que tu retrouves de la motivation pour lancer un nouveau projet? Tu vois, une fois qu'on a atteint son sommet, comment est-ce qu'on en trouve un nouveau? Est-ce que c'était important pour toi d'en trouver un nouveau? Est-ce que tu as besoin de mettre du sens aussi dans ce que tu fais?
Alors, pour moi, c'était pas mon sommet parce que j'avais pas de bateau performant. Donc l'idée, c'était avec mon sponsor à l'époque d'acheter un bateau plus performant.
Ok. Et de la performance quand même.
Repartir sur un Vendée Globe, mais pour finir au moins dans les 10, quoi.
Ouais.
Et je ne sais pas pourquoi ce sponsor avec lequel j'ai bossé. Donc à mon retour du Vendée, on a tout de suite bossé. On est allé visiter des bateaux ensemble et tout.
Ah, t'es direct reparti dans le bain, quoi.
Finalement, on n'a pas suivi.
Ouais.
Alors là, je tombe de haut, mais surtout, j'ai fait toutes mes interviews du retour du Vendée Globe en disant que c'est bon, mon sponsor me suivait, donc j'en ai pas à chercher d'autres. Et ça, j'ai un conseil à vous donner. Si vous avez un sponsor, continuez à en chercher un autre. Parce que vous ne savez jamais ce qui peut se passer.
Exactement, c'est vrai, c'est vrai.
Et du coup, grosse déception. Donc là, on arrive au mois de, juin, juillet, tout tombe à l'eau. Et je me dis, mais en fait, ce que j'avais envie de faire, c'était pas le Vendée Globe, donc ça tombe très bien. Moi, ce que je veux faire, c'est le trophée Jules Verne, le tour du monde le plus rapidement possible en équipage. C'est un record qui a été créé par Titouan Lamazou et Florence Artaud. C'est Yves Le Cornec qui a eu cette idée. Donc, la règle du jeu, c'est tu pars quand tu veux avec le bateau de ton choix. Ouais. Et avec le nombre d'équipiers de ton choix, tu pars, la ligne de départ est en face de Brest vers Ouessant. Et là, le record à battre, c'est 40 jours. C'est un record qui a été établi par IDEC et Francis Joyon. C'est un record qui n'a quasiment pas été pratiqué par des femmes. Mais ça, c'est un truc de dingue. Il y a eu un seul équipage féminin, c'est il y a 25 ans. 25 ans!
Ouais.
25 ans! Je répète. C'était très chiant.
Juste pour
Edouard.
Une participation.
Ouais, pour okay. Une participation. Et depuis, pas de femme, à part Donna Bertarelli, qui a l'écurie de course Spindrift. Ouais. C'est la seule femme, mais au secours.
Ok.
Comment c'est possible?
Donc, c'est ça ton nouveau challenge?
Donc, le nouveau challenge, c'est The Famous Project, un équipage 100% féminin, un équipage international, avec les meilleures navigatrices au monde. À mes côtés, donc un groupe de 10 femmes et on partira en 2024, à l'hiver 2024, parce qu'il nous faut 2 ans de préparation et d'entraînement pour attaquer le trophée Jules Verne en 2024. Donc là, on est en train de chercher des financements.
Le but,
voilà,
est de gagner.
Donc c'est reparti. Le but, c'est de gagner. Le but, c'est d'établir un temps de référence féminin.
Ok.
parce qu'il n'existe pas. Le tour du monde en équipage féminin sans escale et sans assistance, il n'y a pas de temps de référence. Et le but, surtout, c'est de créer un sillage et d'emmener avec nous des jeunes et des petites filles, des jeunes femmes, des femmes, et de leur dire, mais ne laissez personne vous dire que c'est pas votre place et que vous ne pouvez pas le faire.
Ouais.
Et allez créer votre opportunité. Pourquoi j'ai fait du match race féminin? Parce que les garçons m'invitaient pas à naviguer avec eux. Mmh. Pourquoi j'ai fait du solitaire? C'était pour prouver à ces mecs qui ont pas voulu de moi sur le quai à Saint-Tropez, que j'avais le niveau de naviguer avec eux. Aujourd'hui, c'est ces mecs-là qui m'appellent pour venir naviguer avec moi. Mmh. Et ça me fait rigoler. Mais voilà, juste changer, faites bouger les lignes, essayez de aussi changer de point de vue quand on fait des projets, de regarder un peu des différents points de vue, c'est important. Donc ce trophée Jules Verne, je vais le courir avec des filles comme Marie Rioux, qui est une Française, la fille la plus rapide au monde. Elle a atteint la vitesse de 50 nœuds. Bon. Ok Marie, 49,7 nœuds. Marie Tabarly, qui est la capitaine de Pendvic 6 et qui naviguait sur Geronimo avec Olivier de Carsozon. Il y a Sarah Streeter, une Américaine. Dicar Farry, qui est la seule femme qui a fait le tour du monde à l'envers et à l'endroit, en solitaire.
C'est un super niveau, en fait. T'as regroupé les meilleurs.
C'est le recordman de Maboul. Ouais. Et on va prendre deux ou trois jeunes dans l'équipe, des filles qui viennent de l'olympisme et des supports rapides, tu sais, les nacras, les catamarans super rapides, pour justement semer une graine et voir des projets après naître, des projets d'envergure, que ce soit en voile ou pas en voile. Ouais. On s'en fiche, c'est juste de foncer, quoi, d'accrocher ses rêves.
Et comment est-ce qu'on peut vous aider? Je crois qu'il y a une opération de com qui est un peu particulière. Tu parlais d'un euro une femme. C'est comment est-ce que vous articulez ça du coup?
Quand les femmes se soutiennent, des choses incroyables arrivent. Alors pour soutenir l'épopée féminine maritime du siècle, on monte un crowdfunding d'envergure, de dimension planétaire, et on demande aux femmes de nous aider à démarrer, parce que encore une fois c'est un sport mécanique, on a besoin de moyens financiers, mais aussi la symbolique d'avoir une communauté de femmes derrière nous, c'est super important. Donc c'est une femme, un euro. Okay. Et ça se passe sur Hello Asso, The Famous Project, et comme ça vous pouvez faire un don déductible des impôts. Alors pour un euro, voilà, ça coûte pas cher vraiment, mais vous pouvez donner plus évidemment, mais c'est au-delà de l'aspect financier, c'est vraiment l'envie d'emmener une communauté avec nous dans cette aventure.
Bah écoute, je vais courir de ce pas, tu vois. J'ai envie de participer à cette aventure. J'ai envie de participer à ces futurs records, à cette épopée, parce que je pense que c'est peut-être, en tout cas tel que t'en parles, ça a l'air d'être que le début de plein d'autres projets qui peuvent s'en suivre. Et effectivement, j'aime beaucoup cette dimension, tu vois, un peu de sororité que tu amènes un peu, que vous amenez du coup en équipe. Et tu sais, j'en avais parlé avec Clarisse Kremer, c'était un super épisode. Et je t'avoue qu'elle m'avait mis une baffe parce qu'on avait parlé un peu du genre, tu vois. Je lui dis ouais, voilà, un sport masculin. Toi, t'es une jeune femme. Quoi. Et elle m'avait renvoyé presque ouais d'un revers de la main ma question en disant non mais sur un bateau, c'est y a pas d'homme, y a pas de femme. On est des marins, y a pas de genre. Donc c'est même pas un sujet, en fait, j'ai pas envie qu'on en parle. Et j'étais, tu vois, j'avais trouvé à la fois sa réponse géniale, tu vois, je me dis, mais c'est vrai, elle a raison, ok, elle a raison.
Dans le principe, elle a raison, mais dans la réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que on a des différences. Bah, Clarisse, elle a eu la chance d'avoir Bang Pop comme sponsor et de tout de suite avoir des moyens financiers importants. Mais c'est hyper rare et il y a pas d'égalité homme-femme. On a vraiment du mal à avoir des vrais budgets, on a vraiment du mal à avoir des opportunités comme sur les multicoques. Mais là ça démarre, je pense qu'avec The Famous Project on a fait du bruit, on a commencé à faire du bruit, et justement les équipes, il y a que des garçons, ils commencent à se regarder, à se dire mince, il manquerait pas un truc là dans l'équipe. Et la mixité, c'est vraiment la richesse et des talents complémentaires. Donc Clarisse a raison, la voile c'est un sport mixte. Néanmoins, on a encore que même pas 10% de femmes à haut niveau. Il n'y a pas de femmes préparateurs. Dans tous les métiers de la course au large, il y a très peu de femmes. Donc, à tous les niveaux, on peut évoluer. au niveau des salaires, c'est pas du tout la même chose. Enfin, il y a énorme, comme dans la société, il y a beaucoup de progrès à faire, mais ça avance, ça progresse.
Ouais. Mais en tout cas, tu vois, j'ai l'impression que vous êtes les bonnes personnes pour faire évoluer ça, et j'ai l'impression que ça va dans le bon sens. Tu vois, et même quand je regardais sur la Transat Jacques Vabre, il y avait des équipages féminins, deux sœurs, je crois d'ailleurs, qu'on fait un.
Oui, les sœurs Courtois. Ouais. J'étais marraine avec Clarisse, on était marraine de leur bateau, de leur classe 40. Il y avait Morgane Poupon aussi avec une alpiniste.
Ouais.
Ouais.
Et j'ai l'impression que ouais, effectivement, il y a des jeunes femmes, tu vois, et c'est quelque chose qu'on voyait pas, qu'on voyait moins, tu vois, il y a quelques années, donc. Ça fait plaisir à voir, tu vois, ce renouveau aussi. Et je suis sûr que, tu vois, ça sera bien accueilli sur les pontons. Et certaines mentalités mettent plus de temps à changer.
Tu as tellement raison.
Mais il faut... Mais c'est sûr que ça va se lisser, tu vois.
Mais les hommes sont super fiers de voir cet équipage exister. Mmh. On a eu des propositions d'aide, ou en tout cas, il y a des garçons qui ont postulé, ils m'ont demandé s'ils pouvaient se laisser pousser les cheveux pour venir dans notre équipe. Je dis, vas-y, fais-toi pousser les cheveux, tu vas pas rentrer dans l'équipe, mais ça va me faire rire.
Et vous prenez que des femmes pour effectivement être sur le bateau, mais est-ce que vous prenez aussi dans l'équipe technique, tu vois, on l'a mentionné, c'est une grosse équipe, vous essayez aussi
Alors,
de faire...
Alors, on est un équipage mixte pendant les 2 ans de préparation, parce que comme il y a aucune femme qui navigue en multi-océanique, on va travailler avec les meilleurs marins de cette discipline. L'équipage et l'équipe à terre est mixte, sauf pour le record du trophée Jules Verne. Et sûrement en 2023, on va faire des records comme Yokohama, San Francisco, Miami, New York. Ce sera juste l'équipage des filles qui partent sur le Jules Verne parce qu'on a besoin d'être ensemble. Mais on n'est pas les uns contre les autres. On progresse ensemble.
Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de... Tu l'as un peu mentionné, tu vois, il y a eu beaucoup de revanches un peu sur des événements passés. Qu'est-ce qui t'a donné envie, tu vois, de t'engager et de créer un... De concrétiser, en fait, tu vois, cette volonté de mettre plus d'égalité dans la voile?
Bah, toutes mes activités, qu'elles soient associatives, parce que j'ai l'association Format et Planète depuis 12 ans pour la préservation de l'océan, et l'éducation et mes activités d'entrepreneur, il faut qu'il y ait du sens. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Et là, je pense que sur le volet environnemental et éducation, depuis 12 ans, on a bien bossé. J'ai encore besoin d'en parler. C'est dans l'ADN de mes projets, mais j'avais pas assez mis l'accent justement sur cet aspect mixité et donner l'opportunité à des femmes, voilà, de naviguer au plus haut niveau, de devenir des rôles modèles. Et pourquoi pas pour des sponsors aussi des égéries et d'embarquer avec nous la modification du visage de la société, c'est plus fort que le record, plus fort que le trophée Jules Verne.
Ouais, mais c'est sûr. Mais en tout cas, c'est, enfin, je trouve ça vraiment enthousiasmant et je pense que ça va faire vraiment beaucoup de bien, tu vois. Même, tu vois, effectivement, c'est un sport effectivement qui demande beaucoup de fonds. Il y a certains sponsors qui sont là depuis très 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 longtemps et je pense que le fait, tu vois, d'avoir des nouvelles têtes, des nouveaux visages mis en avant, des nouvelles perspectives, ça veut aussi ramener de nouvelles dynamiques. Et j'avais lu d'ailleurs un mémoire d'un étudiant qui m'avait envoyé son mémoire sur le marketing sportif et dans lequel j'avais vu que ouais, la voile était un des sports les plus intéressants pour les entreprises en fait à soutenir, parce que le retour en termes de communication, ouais, est le mieux, parce
que
le
retour sur investissement est assez important parce qu'on cite la marque à chaque record ou course.
Puis on voit sur les images, on voit le bateau qui est énorme.
Mais au-delà
de
ça, on s'accroche encore une fois à des valeurs, à un message commun. Et je pense qu'aujourd'hui, le message, il est encore plus fort que la marque.
Bien
et
sûr.
Si y a une marque qui a envie de faire passer un message, voilà, autour de justement l'égalité des sexes et sur la mixité. C'est encore plus fort de faire valoir le message et ça apportera un capital sympathie et de la notoriété pour la marque qui s'engagera dans The Famous Project.
Eh ben écoute, trop cool. On peut vous suivre sur les réseaux The Famous Project?
Ouais,
il y a
déjà
des choses.
On est lancé depuis pas longtemps, mais on y est.
Bon,
et sur YouTube aussi, on a une chaîne YouTube. Okay.
Trop cool. Bah écoute, trop bien. Je vois que vous avez mis toutes les bonnes choses en place. Écoute, j'encourage fortement les auditeurs, les auditrices à aller vous suivre, à venir soutenir le projet parce que c'est très cool. Ça va être une première mondiale, ça va être historique et ça promet plein de belles choses. Donc
on t'emmènera naviguer même si t'es un garçon. T'auras le droit de venir faire un run.
Je viens avec ma caméra et mon micro et puis on peut faire une petite interview sur le.
Excellent.
En arrivant, en mettant le pied sur terre. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et moi, si je peux donner le maximum de visibilité à ce projet-là, je serais hyper content. Donc même si t'as envie de, si t'as le contact de tes coéquipières pour faire une petite interview avec elles, je serais curieux aussi.
Mais oui, bien sûr. Tu parles anglais?
Bien sûr.
Ah bah voilà.
Allez.
C'est vendu.
Bingo. Trop trop chouette. J'ai mes petites questions pour la fin avec lesquelles j'aime bien terminer. Pour détendre un peu l'atmosphère, avoir un peu un petit shoot d'inspiration. La première, c'est de savoir c'est quoi une journée idéale pour toi.
Pour moi, une journée idéale commence par du sport, du vélo ou de la course à pied parce que j'adore être dans la nature. Après, je me mets un peu sur l'ordinateur parce que je suis chef d'entreprise et je suis un peu le train qui fait avancer les wagons. Et si ça peut se terminer par une navigation au coucher de soleil, c'est juste magique.
Ok, du sport sur terre, du sport sur mer et de faire avancer les projets. Comment est-ce que tu progresses? T'as mentionné plusieurs fois que tu t'es pris des claques, notamment sur la partie entrepreneuriale. Comment est-ce que tu fais pour te remettre en question et progresser?
Chaque expérience, ça fait progresser. Et c'est pas parce que t'as pas atteint tout de suite ton objectif que c'est une mauvaise expérience. Donc les expériences, experience is the best, même si ça se passe pas comme on a prévu. C'est toujours super intéressant, enrichissant de tenter les choses, quoi.
Ok. Si tu devais me donner tes deux plus gros points forts, ça serait quoi?
Alors l'audace et la détermination.
Ah, trop bien. On s'en serait douté. Hein. Après une heure de conversation, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ta bibliothèque ou dans ta médiathèque? Est-ce qu'il y a un film, un livre que tu aimerais recommander à tout le monde?
Un film, moi je suis très grand bleu, parce que j'ai fait aussi de l'apnée quand j'étais à la fac. J'adore vraiment cette ambiance, en mer mais sous l'eau cette fois-ci.
Ouais. Mais écoute, je te recommande mon tout premier épisode avec Arthur Guérin-Boëri.
Ah oui, avec plaisir.
Qui était absolument génial et en plus il vient de...
Il a battu un record là.
Exactement, ouais. Il vient de rebattre un record effectivement d'apnée sous glace en distance et c'est absolument incroyable.
C'est
dingue. Il me surprend, c'est toujours plus fou là sous la banquise à aller nager 120,
incroyable,
120
Arthur.
Ou 130 mètres.
Ah ouais.
Il est génial quoi.
Ouais. Et
il est pas loin d'ici, il habite...
Ok.
Ouais, il est pas loin.
Quand il est pas sous la glace.
Exactement. Mais je vais lui passer un petit coup de téléphone, tiens d'ailleurs, ça me ferait plaisir d'avoir ces nouvelles. Si t'avais un grand tableau que la terre entière verrait et que tu pouvais toi être la seule personne à pouvoir écrire dessus, et que tu pouvais écrire quelque chose, qu'est-ce que t'aurais envie d'écrire sur ce tableau-là?
Oser.
Ça va avec l'audace?
Ouais, exactement.
Ok. Et si tu pouvais être une petite souris et revenir un petit peu en arrière et aller voir justement la jeune Alexia qui a envie de faire sa première transat et que tu pouvais te donner un conseil à ce moment-là, qu'est-ce que tu as envie de te dire?
J'aimerais me dire reste humble mais ne sois pas timide parce que la timidité c'est du temps perdu. Alors il faut respecter les gens. Savoir rester à sa place, mais pas s'embarrasser avec ce comportement qui, je trouve, nous paralyse parfois, et quand on est jeune, d'autant plus.
Ok. Et est-ce qu'il y a, à cet âge-là, il y avait un raccourci que tu aurais aimé avoir dans la vie, tu vois, ou sur la voile pour arriver plus rapidement à ton objectif
Mais alors, je me dis parfois que j'aurais bien aimé avoir un sponsor plus rapidement pour faire le Vendée Globe, et d'un autre côté, je me dis... que j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu et que si les choses arrivent c'est souvent pour une bonne raison et parce que je dois sûrement avoir la force de de supporter pas mal de trucs compliqués, mais ça m'empêche pas de progresser, au contraire.
Bon, bah, trop bien. C'est un très bon message. Et ma toute dernière question, c'est de savoir, c'est un peu comme un passage de flambeau olympique, mais c'est plutôt un passage de micro. C'est de savoir quel est le ou la prochaine athlète que tu me recommandes d'aller interviewer pour parler de son histoire, de son engagement dans le sport, pour parler aussi, on peut parler de tout ici sur le podcast Extraterrien.
Bah, tu parlais de mon équipage, et il y a une fille qui va faire quelque chose d'incroyable. Elle va faire le tour du monde en équipage sur le bateau de son père, avec escale, mais sans ordinateur, sans aucun moyen technologique actuel.
Okay.
Comme zéro au temps de la Voice Bread.
Okay.
Je crois qu'il y a l'électricité, mais juste, voilà, je suis même pas sûre. C'est Marie Tabarly. Okay. Et Marie, elle se lance là-dedans. Je sais pas si j'aurais le courage de faire ça, tu vois. Naviguer au sextant. Après, c'est un art de vivre, et en tout cas, ça lui va bien. Et avec son équipage, je pense qu'ils vont vivre des choses incroyables, mais ouais, ça va être un beau challenge à suivre.
Bon, bah, écoute, trop cool. Écoute, faut que je prenne rendez-vous avec Marie. Ça sera avec grand, grand plaisir. Et effectivement, ça a l'air d'être un défi un peu fou. Mais je pense qu'ils vont effectivement se régaler. Merci infiniment pour cette grosseur, Alexia. Je me suis régalé, de pouvoir aborder d'autant de sujets. Et puis, merci pour tous les détails que t'as pu donner, tu vois, sur, la course, des petits détails un peu techniques, tu vois, je sais que les auditeurs adorent, tu vois, avoir un peu ces petites anecdotes très concrètes, qu'on voit pas, qu'on connaît pas toujours, tu vois, quand on suit un événement sportif ou qu'on suit un athlète, on se rend pas compte toujours de ces petits détails, voilà, qui suit la course, qui vous aiguille, les règles aussi, tu vois, parce que il y a quand même beaucoup, beaucoup de règles. Je crois que les règles du Vendée Globe, ça tient dans 50 pages. Voilà, merci infiniment pour tout ça, et vraiment, je touche du bois pour que tes projets à venir
ça va le faire
réussissent super bien, et je suis sûr que les auditeurs d'Extraterrien viendront t'envoyer un petit message et vous apporter du soutien pour la suite.
Top, merci beaucoup.
Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.